le concours artistique d'après-Reims. J'étais étudiant à l'école des beaux-arts. Fait que j'ai fait, je pense que j'ai fait ma première sculpture.
Tu faisais des néons avec du laser,
plexiglas avec une boîte lumineuse. Puis je l'ai soumis au concours artistique.
Tu étais refusé.
Elle a été acceptée.
Acceptée.
Elle a été acceptée et elle a été achetée. Puis cette année-là, il y avait plusieurs étudiants à l'école des beaux-arts qui avaient des choses. Mais curieusement, j'étais comme en train de me réorienter. C'est-à-dire que moi, j'ai fait l'école des beaux-arts en peinture. Et pour arriver à plus ou moins constater que dans ma dernière année, qu'est-ce qui m'intéressait, c'était de faire la sculpture. Sauf que après, j'ai essayé de comprendre pourquoi je n'avais jamais été intéressé par la sculpture pendant mon séjour à l'école des beaux-arts. Et moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'on m'a découragé. C'est-à-dire qu'au niveau de, je pense, des profs que j'ai eus en sculpture au tout début, parce que la première année, sculpture est obligatoire.
Bois Boisvin, etc.
Oui, j'avais Boisvin. Quoique avec Boisvin, ça marchait assez bien, puis il m'avait dit, tu as trop de talent. En fait, il m'a dit, j'avais trop de talent. Fait qu'il dit, bon, trop de talent, ça veut dire facilité. Mais Boisvin n'était pas trop pire. Je pense que quand j'étais arrivé en deuxième année, c'était encore obligatoire, sculpture, puis j'ai eu Breitstein. Et lui m'a découragé. Puis Boisvin était, bon, c'était correct en première année, mais peut-être que l'esprit, sa vision de la sculpture, trouvait ça plutôt pénible. Hein. Alors, peut-être que quand j'ai commencé ma deuxième année avec Breitstein, j'ai vraiment décroché complètement. Surtout que en sculpture, ça avait l'air assez artisanal, comme approche du temps, plutôt technique. Et j'avais l'impression que les peintres qui étaient aux étages supérieurs de l'école, c'est là que ça pensait. Là, on manipulait des concepts. Alors moi, j'ai eu un attrait pour la peinture définitivement. Mais tu sais, là, je l'explique aujourd'hui avec le recul. Je pense que dans le temps, je l'aurais pas. Ça aurait été difficile pour moi de savoir pourquoi exactement. Mm-hmm. Ça tient à plusieurs raisons. Peut-être au fait aussi que je suis pas arrivé directement à l'art. J'ai commencé par. As-tu déjà entendu ces affaires-là aussi?
Non.
Non, tu n'as jamais entendu ça, non? Ben, j'ai déjà raconté ça. Pas souvent, mais tu as dit que moi, j'ai pas commencé à m'intéresser à l'art comme, enfin, la plupart des étudiants à l'école des beaux-arts, c'était courant, à 18 ans, ils sortaient, à ce moment-là, c'était du secondaire, puis ils rentraient à l'école des beaux-arts. Donc, moi, je suis allé sur le marché du travail. Puis j'ai découvert la peinture ou l'art d'une façon générale, parce que je savais même pas, je veux dire, je savais que ça existait, mais j'avais pas vraiment comme un intérêt pour ça. Et j'ai découvert ça par une sorte de concours de circonstances. Puis je l'ai découvert en voyant un tableau de bordure. Ce qui était très particulier parce que ça a été, sans jamais connaître bordure, ça a été comme un moment de révélation pour moi. Le fait que je suis arrivé devant un tableau en particulier, je ne connaissais rien de la peinture ni de la sculpture. Mm-hmm. Pas vraiment un intérêt pour l'art, quoique j'ai beaucoup lu quand j'étais plutôt jeune. Beaucoup de littérature, consommé beaucoup. Et puis j'ai vu l'étoile noire, qui est le fameux tableau que le musée des Beaux-Arts a. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé là qui était très fort. Puis j'ai compris que l'art pouvait être d'autre chose que ce qu'on m'avait montré à cette école. Parce qu'au lieu de dessiner des pommes et des patins de même, c'était vraiment, il y a quelque chose là qui pouvait être spéculatif sur la réalité. Il pouvait être une interrogation sur ce qui nous entoure, qui on est ou des choses comme ça. Mm-hmm. J'ai cliqué là-dessus. Mais quand j'ai cliqué là-dessus, j'ai essayé de le faire comme un autodidacte. C'est-à-dire, je n'avais pas de formation. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté des couleurs, puis j'ai commencé à projeter sur une toile en essayant de faire ce que Bordure avait fait. Mm-hmm. Évidemment, j'avais vu aussi un Riopel qui devait traîner dans le coin, dont j'ai un peu oublié. Le Riopel n'a jamais été comme plus intéressant que ça pour moi. Mais
Le titre du tableau, c'était Autriche.
Oui.
C'est ça, vous êtes.
Et puis, possiblement, j'avais vu à cette époque-là des Jack Bush aussi, par après. Tu vois, j'ai commencé à fréquenter des expositions, je suis allé dans toutes les galeries. Et puis, j'ai rencontré un gars qui. C'est ce gars-là, d'ailleurs, qui m'a emmené au Musée des Beaux-Arts, ça s'appelle Jules Chartier. Concours aux circonstances, parce qu'on travaillait à la même place.
Tu faisais quoi comme toi?
Je faisais moitié graphisme, moitié photo. Et puis, quand je dis graphisme, enfin, j'en mets un peu parce que ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on travaillait dans une maison de graphistes et nous, on lavait les pinceaux des illustrateurs, des designers. On allait chercher des cafés, puis vraiment, c'était...
C'était le massier, bon, quoi, de l'atelier.
Oui, on commençait, c'était... Les autres, ils avaient, à l'époque, dans ces studios-là, ils avaient comme une notion d'apprentissage. Tu commençais au tout début à nettoyer la place, puis tu montais tranquillement, puis un jour, tu devenais le grand designer numéro un de la place. Et il fallait que tu passes les échelons. Fait que j'ai fait peut-être 3 ans dans cette boîte-là, jusqu'au point où j'ai fait... je commençais à dessiner. Je faisais les annonces de Dow. Très intéressant. Alors, c'est comme ça que j'ai rencontré Chartier, qui m'a remplacé, en fait. Moi, j'ai fini d'aller chercher des cafés, de laver les pinceaux. Puis, m'ont dit, bon, là, tu peux commencer à travailler sur une table. Et, bon, Chartier a pris ma place et je lui ai montré le boulot. Lui, il m'a dit, je peins chez moi. Alors, je me suis lié d'amitié avec Chartier. Je suis allé chez lui et j'ai complètement fasciné. Le gars faisait de la peinture dans sa cave. On a commencé à fréquenter les musées, les galeries. Puis c'est Gilles qui m'a introduit comme au monde de l'art. Parce que moi, je ne viens pas d'un milieu bourgeois, mais un milieu où l'art n'a pas une réalité, n'a pas une présence. Mm-hmm. Et puis, à l'école, on ne m'a pas accroché là-dessus parce qu'on m'a donné une vision qui était vraiment... débile, ce que pouvait être
la construction mécanique.
Même que je pense qu'on ne me laissait pas dessiner dans le journal de l'école. Toi. Alors, c'est un peu ça mon. Alors, Bordura était comme. C'était très fort, comme la présence de ce tableau-là, le fait que Gilles faisait de la peinture, j'ai accroché plus comme au niveau des peintres, en fait. Et je suis resté avec le modèle de Bordura, qui est un penseur, un peintre, la victime aussi, évidemment. Ça, c'est un modèle très fort, c'est un modèle fort dans le milieu aussi. Mm-hmm. Puis ça, on peut en parler, évidemment. C'est un modèle avec lequel j'ai aussi quand même à me démarquer parce qu'on est, enfin, on cherche toujours un autre bord. C'est un milieu qui cherche un autre bord.
On pourra revenir là.
Oui, on pourra revenir sur ça. Et, alors, c'est un peu... je me suis retrouvé... essayer de rentrer à l'école des beaux-arts. On m'a refusé. Et ça, c'était un échec. On m'a dit que j'avais pas de talent. Alors, j'ai essayé de continuer comme autodidacte. Tu vois, j'ai 23 ans, 24 ans à peu près. Puis, je peux pas rentrer à l'école des beaux-arts. Fait que ce que j'ai fait, je suis rentré par la porte d'en arrière. Je me suis inscrit au cours du soir. Il n'y avait aucun prérequis. Et puis là, j'ai fait comme une année extrêmement rapide. Un mois en première année. Et ils m'ont dit... Il faut aller en deuxième année. Ils m'ont mis en deuxième année. Là, j'ai pogné un gars qui s'appelait Bertrand. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré Bertrand. Il boite un peu. En tout cas, c'est un gars assez spécial. Il était plutôt dur avec les étudiants. Et puis, lui m'a poussé, m'a encouragé à aller en première année le jour. Puis, c'est un peu lui qui m'a fait rentrer.
Ça
s'est un peu parlé par mes professeurs qu'il y avait quelque chose qui marchait. Fait que j'ai accédé comme ça. Alors, comme ça aussi, c'était un modèle fort, parce que probablement Bertrand avait une certaine présence aussi. Et finalement, c'est ça. Je me suis retrouvé à l'École des beaux-arts, fait le trajet comme pensant que j'avais un talent peintre. Mero là a eu une importance aussi. J'ai travaillé avec Mario sur des projets, pendant que j'étais bien. Et puis, c'est ça. Je me suis retrouvé avec Roland, dernière année, à travailler dans son atelier, ce qui était assez intéressant pour un étudiant, parce que je voyais un gars fonctionner dans le réel. Et je pensais que j'avais un talent peintre, j'étais très bon à faire des coups. Mais Roland m'avait engagé parce que je pouvais faire des mélanges de couleurs, je pouvais faire des contrastes de saturation au poil. Puis finalement, tu vois, j'ai complètement décroché de la peinture. Puis même aujourd'hui, j'ai l'impression que le type de sculpture que j'ai fait a subi beaucoup d'influence de la peinture. Curieusement, beaucoup plus que de la sculpture.
Comment?
Préoccupation de la lumière. Ça peut être une préoccupation de sculpteur, mais il n'y a pas de sculpteur qui utilise l'ombre comme un élément important, un élément fonctionnel dans la sculpture. C'est un élément qui fait partie de l'univers des peintres. Mm-hmm. Il y a très, très peu de sculpteurs. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Londres, puis j'ai fouillé un peu historiquement qui a travaillé avec ça, personne. Medardo Rosso, un peu. C'est une idée du...
Medardo Rosso?
Medardo Rosso.
Medardo Rosso.
Oui, de l'époque de Rodin.
Mm-hmm.
Fin du 19e.
OK.
Il fait beaucoup de têtes en plâtre, saucées dans la cire. Alors, il y a comme une couche de cire par-dessus. Alors, certains Medardo Rosso ont des parties où la partie de la sculpture projette une ombre sur le visage. Il était très intéressé par l'idée du voile, comme voilé. Alors, il s'est servi de l'ombre pour voiler. Mais c'est un des... Mais lui, il tenait ça comme tradition du bas-relief, plutôt. Du 19e siècle, le bas-relief, on utilisait des projections ombragées pour créer un espace dans le bas-relief. Et donc, c'est proche de la peinture encore, tu vois, mm-hmm. à cause du bas-relief. Et il y en a plein. Tu sais, sûrement, j'en penserais à d'autres, là, mais spontanément, il n'y en vient pas, là, tu sais, comme ça. Il y a peinture chinoise aussi. C'est plus apparent dans le dessin. Mais oui, une présence très forte de la peinture, finalement. Parce qu'il y a eu toute une pensée qui s'est faite. J'ai appris ce qu'était l'art là, à travers, finalement, une vision de peintre, plus que par. Et puis, aussi, je me suis aperçu qu'il y a plein de sculpteurs qui ont fait la même chose que moi. Ils ont commencé par... Ils ont passé par la peinture. Je pense à Sachs, c'est la même chose. Même, enfin, lui, il est passé par la gravure, en fait.
Peinture-gravure,
puis finalement. Et puis, ça a l'air d'être un parcours aussi, finalement, assez courant chez les sculpteurs. Et on ne voit pas de sculpteurs aller vers la peinture, plutôt que des peintres aller vers la sculpture.
Mm-hmm.
J'ai jamais entendu parler du trajet contraire.
Non.
Je ne sais pas si ça a un intérêt, mais en tout cas.
Non, parce qu'il y a une chose que tu disais tout à l'heure, c'est ça. Tu disais ce qui m'intéressait, c'était les idées. Est-ce que ça veut dire que...
J'ai l'impression qu'il y avait des concepts, tu sais, qu'on
des concepts, des...
Oui.
Mais est-ce que ça veut dire que la peinture, quand je l'ai vécu, les périodes de vie, elle n'avait pas de concept, quoi. Et que finalement, les concepts pouvaient être réalisés en sculpture et ne pouvaient pas être réalisés en peinture.
J'ai pas compris un mot, j'ai pas compris ce que
tu
as dit.
Tu dis, ce qui m'intéressait, c'était les concepts.
Oui.
Est-ce que tu disais qu'en peinture, il était presque impossible de transmettre les concepts, finalement, au moment où tu étais là, au Beaux-Arts, 68-69, à ce point-là. Alors que la sculpture, elle, pouvait transmettre des concepts. Puis là, je te parle d'une peinture qui est bien limitée, celle des Beaux-Arts.
Non, je ne fais pas la critique de la peinture. Je pense que la peinture est devenue pas opérante pour moi parce que j'étais pas un peintre, tout simplement. Et pas parce qu'on ne pouvait pas, qu'effectivement, ça ne se prêtait pas à manipuler les concepts. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que probablement j'aurais dû me diriger plus rapidement vers la sculpture. Mais au Québec, au moment où moi je me suis où moi je suis arrivé sur la scène, mm-hmm. et puis il y aurait dû y avoir des sculpteurs là, que j'aurais rencontrés, ça ne s'est pas fait. Ce que j'ai rencontré, c'était des gars qui étaient très artisanales. C'était un trip de bras, la sculpture au Québec, c'est ça. Vaillancourt puis Roussel.
Mm-hmm.
Alors, moi, je suis arrivé dans un contexte où j'avais j'ai eu des profs qui n'étaient pas nécessairement. Peut-être des gens qui étaient très d'avant-garde non plus, à l'époque, qui étaient plutôt conservateurs, traditionnels, et puis qui avaient des préoccupations plutôt d'ordre très artisanal ou technique, ou qui étaient très réactionnaires. Bryson était extrêmement réactionnaire, je m'en souviens comme un homme réactionnaire. Par rapport à ce que nous, étudiants, on voulait faire, ou ce qu'on était curieux de découvrir, de l'art, qui se faisait à ce moment-là, Bryson, c'est quelqu'un qui disait non. Moi, je me souviens comme ça. Il disait non, il y a toujours une objection. C'était toujours bébé. Alors, il mettait un X sur tout ce qui était comme un sujet de curiosité pour nous, au lieu d'essayer de nous laisser faire, et puis d'insérer des éléments critiques, peut-être, qui auraient pu, mais il n'y avait pas d'habileté pédagogique. Il était plutôt comme un blocage. Fait que je suis allé où ça avait l'air plus ouvert, où il y en a qui essayaient plus, il me semblait, en peinture à l'époque. Moi, je pense qu'avant qu'on toit, il n'y a pas de sculpteur au Québec. En ce qui me concerne, j'en vois pas.
Que tu as Rouchet, Vaillancourt, Télimène.
Il y a certaines pièces de Vaillancourt qui ont un intérêt, mais dans le fond, l'importance de Vaillancourt que je peux y voir, c'est qu'il a trouvé une façon de faire une sculpture automatique, une sculpture gestuelle. Ce qui est intéressant, mais ça n'en fait pas. C'est pas là que ça se passe. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est quand il y a des problématiques qui sont véritablement sculpturales, qui ne sont pas nécessairement travaillées dans le champ de la peinture. Ça se peut, ça se recoupe des fois. Mais je pense que Comtois a ce genre de problématique-là. Il tient beaucoup de l'objet qui est formulé. C'est une problématique de sculpteur.
Comtois est à moitié peintre, moitié sculpteur.
Et oui, vraiment que lui, c'est ça, il a touché. Oui, je n'ai pas ses peintures d'ailleurs. Peinture assez intéressante. Certaines périodes. Mais je sais pas. Moi, ma vision peut-être d'avant, de ce qui a précédé Comtois, je vois ça comme d'une façon un peu artisanale par rapport à ce qui se passait sur le plan international. Je pense qu'il y a des sculpteurs plus importants que ça.
Pour beaucoup.
Puis ils ont été importants comme dans mon développement, sans que je les rencontre, mais à travers le fait que j'ai rencontré des objets dans le temps. Tu sais. Et Pissac, c'était important à ce niveau-là. Pour moi. Parce qu'il a fait une exposition, je pense, en 72, 73, au musée d'art contemporain.
Avec les échelles, là,
oui, et ça,
les
c'était
rouleaux
un choc
par terre.
Pour moi. Ça, c'était un choc.
Ça, c'est 71, 70, 71.
Parce que l'école des beaux-arts que j'ai connue est complètement fermée au courant international aussi. Et puis, c'était surtout comme assez européen comme influence.
Et puis, on pourrait dire plutôt français.
Oui, oui,
dans le sens oui, plutôt fait. Européen. Oui. On aurait été beaucoup.
Et puis, tu vois, comme. Bon, puis les plasticiens n'avaient pas de. On leur avait fermé la porte à l'école des beaux-arts. Fait que les plasticiens d'ici n'étaient pas agissants, n'avaient pas d'influence non plus à l'école des beaux-arts. S'ils en ont eu, c'est parce qu'il y avait des étudiants qui essayaient de trouver d'autres choses que ce que les profs leur proposaient. Puis, mais, donc, à ce niveau-là, j'ai découvert aussi certains courants internationaux. Ça, il y a eu certaines influences qui sont faites, mais tardives. J'étais sorti de l'école des beaux-arts bien. En fait, moi, je calcule que les 4 années que j'ai passé à l'école des beaux-arts, puis peut-être les 2 ou 3 années qui ont suivi ça, c'est toute ma période d'apprentissage.
J'ai eu on dit jusqu'en 72.
Oh oui. J'étais à l'école. C'est une sorte d'école, même si j'étais plus là. J'étais encore dans une période d'apprentissage.
Parce qu'il y a un moment, je me souviens que tu m'avais dit que, par exemple, la sculpture, justement, avec les néons, là, ou les rayons de lumière, qu'aujourd'hui, tu reniais tout ça. Tu m'avais dit en 78. En disant que c'était vraiment des travaux d'étudiants.
C'est-à-dire que j'ai casé ça, oui, dans la période.
Des recherches préliminaires.
J'ai presque tout détruit de ça aussi. Parce que ça faisait partie de... Je cherchais aussi des choses. J'étais loin d'avoir trouvé un langage personnel. Et puis, j'ai été longtemps à traîner les influences que j'avais ramassées durant ces années-là. Et puis, en sortant de l'école, je ne m'en suis pas débarrassé. Ça n'a pas été instantané. Puis ça m'a pris du temps avant de les voir, lesquelles influences qui étaient là, qui étaient finalement d'un blocage aussi. Tu sais. Parce qu'en quelque part, j'ai eu l'impression que, à force d'apprendre, c'est devenu tellement culturel au niveau de l'art que j'étais devenu paralysé. Parce qu'en fait, ce que j'ai vécu, c'est une forme de paralysie. C'était très, très grave.
Surcharge d'informations, bloqué, paralysé.
Surcharge d'informations, oui. Et puis, c'est trop de choses aussi, c'est-à-dire que finalement, tu peux plus agir. Le problème, c'est que, dans le fond, par rapport à ce que j'étais avant de rentrer à l'école, j'étais comme une sorte de naïf. Puis une fois que tu as accédé à la culture, tu ne peux pas devenir naïf, c'est fourré. Là, tu es fourré parce que tu sais même plus pourquoi tu poses les gestes.
Donc, une question, au moment de Québec 75, où étais-tu, par exemple, dans cette démarche?
Où j'étais? Où j'étais par rapport à cette démarche-là?
Tu sais, je regarde la pièce.
C'est-à-dire que c'est sûr qu'à partir de Québec 75, avant Québec 75, à partir de... En 72, il y a une année de crise. J'ai rien fait. J'ai tout laissé tomber. J'ai rien fait. L'atelier est vide. Puis, un peu découragé. Mais là, j'avais pris la décision, c'est fini. C'est-à-dire que moi, j'étais arrivé à la constatation suivante. C'est-à-dire que, bon, quand je suis rentré à l'école des beaux-arts, les influences que j'ai reçues, ce que j'avais vu autour aussi, c'est comme la peinture de Barnett Newman quand j'étais allé à New York, puis Mark Rothko, puis toutes ces choses-là, pour moi, c'était des fins de trajet, des fins de parcours, des hommes de 60 ans. Alors, beaucoup d'admiration, beaucoup de ces gars-là, pour la problématique. Mais moi, j'arrivais à faire un travail, t'es influencé avec toutes ces influences-là, si on veut, et puis c'était toutes des fins de parcours. Avec des fins de parcours, tu peux plus... C'est correct pour eux autres, mais pas pour un gars qui en avait 29 ou 30. Pas quand tu cherches aussi c'est quoi ton langage. Alors, il y a un moment de crise là où j'ai réalisé que, bon, je suis dans des fins de parcours, je sais trop d'affaires, puis il faut que j'éclaircisse des choses. Je suis arrivé à un point, moi j'appelle ça mon point zéro. À partir de... Oui, j'ai commencé, alors là, il s'est passé un an, et puis 72-73, j'ai recommencé très modestement, d'une façon simple, comme je n'avais pas travaillé dans l'atelier depuis un an, ce qui traînait sur mes fenêtres doubles. Et j'ai commencé avec ça. Des morceaux de verre, des treillis. C'est pour ça que j'ai recommencé avec ça. Parce que ça traînait dans l'atelier. Puis j'ai recommencé. Dans 72, je me suis dit, t'es au point zéro, tu ne sais rien. Rien. Okay. Je ne sais rien. Demandez-moi pas si je sais quelque chose, je ne sais rien. Tout ce que je vais faire quelque chose, je vais me reculer, je vais dire, qu'est-ce que c'est, Roland? Qu'est-ce que tu vois? À partir de ça, je vais bâtir mon expérience. C'est ce que j'ai fait. Je suis encore en train de faire ça à partir de ce point-là. C'est-à-dire, ce point-là est ininterrompu depuis 102 ou 103.
Donc, c'est là que ça débute.
Oui. Quitte même, je savais que les premiers objets seraient simplistes. Puis même pendant plusieurs années, je pourrais dire que les expériences étaient simples.
Comme l'expérience de véhicule, la présentation véhicule.
Tu parles des treillis, là, avec les plantes de verre, et puis la terre glaise. Mm-hmm. Oui, c'est une base, et je ne la renie pas, c'est ça ce que j'ai fait là. Ce que j'avais devant les yeux, je savais pourquoi je l'avais sur le plancher de telle façon. Et ce qui était une volonté très, très forte, c'était d'essayer d'abord d'avoir un langage personnel. Et ce que j'étais très conscient aussi, c'est-à-dire que la position difficile dans laquelle, bon, un artiste peut se retrouver quand tu es dans un contexte provincial un peu, là, au Québec, dans le sens que, je dis provincial, dans le sens que tu n'es pas dans une métropole qu'on a identifié en tout cas, comme d'où part l'activité plastique et où on en tient compte dans toutes les grandes revues.
Tu es en province.
Je suis en province en quelque part, et puis c'est chez moi.
Mm-hmm.
C'est chez moi. Et bon, alors, essayer de démarquer les influences qui viennent d'ailleurs, ce qui se fait ici aussi, tu sais, et quelle position je peux avoir dans ça. Mais en grande partie, ce que j'ai essayé de faire le vide, c'est avec toute l'école des beaux-arts, toutes les influences que j'avais reçues d'ici, et puis tout ce qui pouvait se passer aussi, d'une façon générale, sur le plan international. Et ça, c'est... Donc, j'ai toujours trouvé ça difficile, et ces problèmes-là sont toujours les... Enfin, j'ai vu encore aujourd'hui, il y a toujours la difficulté de défendre certaines idées qui ne sont pas nécessairement... qui ne font pas partie nécessairement des courants internationaux. Bon, essentiellement, c'est ça. J'ai travaillé par strat, point zéro, puis fais une chose, c'est pas ça, on fait une autre. Et chaque objet découle toujours de l'autre, en fait, dans mon expérience. Et ce que j'ai essayé de viser, c'est une sorte de complexité. Arriver à une sorte de complexité. Sauf que je réalise aujourd'hui sûrement que les objets sont les 13, sont les 14.
Ce serait quoi une complexité, là?
Une complexité? Complexité, ce serait un objet qui fonctionne avec tout ce que je sais. Et je pense que je savais plus à cette époque-là. C'est-à-dire que j'avais un potentiel, mais que je n'étais pas plastiquement en mesure d'arriver à un objet aussi complexe. C'est-à-dire que je n'allais pas aussi loin non plus. Je ne sais pas si je peux l'expliquer de cette façon.
Puis tu dis que tu avais une limitation de moyens, de...
C'est-à-dire que je me suis volontairement... C'est-à-dire que je suis parti d'une situation où ce que je faisais, je pense, c'était complexe, mais j'étais trop culturel. Et quand j'ai dit, bon, ben, je fais le bon, point zéro, je pars... Bon, peut-être que ça va être simpliste, dans le sens que peut-être même on va trouver que c'est un peu premier comme donner, dire, ah oui, tu sais, prends un truc, on met ça à terre, puis là, bon, on en met trois. Ici, dans une situation, j'en ai trois. Bon, c'est simple. Les trois carrés à terre, bon, c'est pas très complexe en type de au niveau des relations entre les parties, des choses comme ça. Je pense que ce que je fais aujourd'hui a un degré de complexité que ce travail-là n'avait pas. Mais il y a un niveau d'authenticité dans ce travail-là qui, pour moi, est tellement important que c'est pour ça que je peux dire que ce que j'ai fait en 70-71, encore sur mes classes scolaires. Et même si le travail de 73,
qui est un peu le déblocage.
Dans le fond, ce que j'ai fait aussi, c'est que ce que ça m'a permis de faire, de partir de mon point zéro, c'est que je me prenais pas au sérieux non plus. C'est-à-dire que même, à part avoir passé une période assez découragée, je suis même pas certain que j'ai recommencé en fait à faire de l'art. J'ai recommencé sans me poser la question savoir est-ce que tu repars sérieusement comme un sculpteur. C'est-à-dire, il y avait la possibilité que peut-être j'arrêterais de faire de l'art. C'était là.
OK.
Tu vois, c'était très... Je me pensais plus comme... Je me suis pas vu comme une carrière, tu vois, comme je fais une carrière dans l'art. La rupture était bien importante à ce niveau-là. C'est pour ça que le moment est très important pour moi. D'avoir fait ça, c'est très important.
Dans quelle année tu débutais l'enseignement?
En sortant de l'école de Beaux-Arts.
Donc, tu enseignais
à petite école.
Ouais. Quand tu rentrais à Laval, à quelle année, toi?
Dans mon année de crise.
En 72.
Oui. Pour 72. Mon année de crise.
Est-ce que ça a eu une relation, l'enseignement, puis la production?
Il y a une affaire intéressante qui s'est passée aussi, c'est que quand je suis rentré à Laval, j'ai rencontré des gars intéressants. J'avais des confrères qui étaient intéressants. Puis il y a eu comme une deuxième école, si on veut, qui a commencé là. Et parce qu'en fait, de 69 à 72, j'étais plutôt isolé, j'étais assez seul. J'ai peu de copains de l'École des Beaux-Arts. Presque personne avec qui je me sentais vraiment des affinités plus que ça. Il n'y a qu'avec un musicien, qu'un gars qui est devenu un musicien avec le temps, finalement. Mais c'est le seul copain que j'avais. Et puis, quand j'ai commencé à Laval, j'ai rencontré Mongrain, Mielsing, puis une couple de gars de Québec, donc Dave Mailer. Et au niveau intellectuel, là, il s'est passé quelque chose d'assez intense. Et on n'avait pas le choix. Un soir par semaine, on était à Québec. Alors, on sortait, on allait prendre une bière. Et on parlait. Fait, on a parlé des soirées et des nuits de temps. Donc, j'ai appris. Non. Pas nécessairement qu'il y avait tant d'affinités que ça, mais il y avait une qualité intellectuelle que j'ai trouvée là, qui a fait que j'ai déployé bien du terrain. Fait à partir de mon point zéro, il y a la rencontre aussi avec ces gars-là. Et il y a une dimension intellectuelle dans nos rapports qui est assez intéressante. Pour moi, c'était... puis je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont dit aussi. Comme Yeltsin a écrit un petit texte quand il a fait une exposition, il y a un an ou deux, et ça, où il parle de cette époque-là, où on se rencontrait. Puis je pense que ça a été aussi intéressant pour les autres. Les autres aussi l'ont vécu comme ça. Donc, un moment assez privilégié, ça a duré peut-être 3-4 ans, jusqu'à ce qu'il vienne un point où on n'a plus rien d'intéressant à se raconter. On s'est tout raconté.
Mm-hmm.
Et il y a eu la période où, à Québec 75, nous a forcé de discuter de plus d'affaires encore, malgré qu'on parlait déjà depuis peut-être une année ou deux. Québec 75 nous a forcé, d'abord, nous avons un petit peu... on a eu l'impression qu'ils avaient mis un peu comme dans une case, tu vois, un peu ensemble, avec développé des affinités entre nous, et puis on se débattait beaucoup. par rapport à ça, tu vois. Et puis, par rapport aux questions qui nous étaient posées, parce que nous, on partait de l'obscurité, puis on nous avait ouvert un spotlight.
Mm-hmm.
Et puis, on a eu peur, c'est sûr. On avait peur du spotlight. On avait peur de toutes sortes d'affaires. Donc, c'est intéressant, parce qu'on était sur nos gardes, beaucoup. Et ça fait qu'on s'est beaucoup parlé. Même que, peut-être tu ne sais pas, mais à Québec, à partir de Québec 75, on s'est rencontrés, je ne sais pas combien de mois on a fait ça, mais on a soutenu une rencontre par semaine. Gilles, Claude, puis Jean-Sac. Nous quatre. On a soutenu. Alors là, on a discuté pendant l'affaire. On a essayé de... on allait jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on discutait tant qu'on arrivait à un point où là, moi, je ne sais plus. On va aller chez nous, puis je vais aller y penser. T'sais, on arrivait tous à des points comme ça, à un moment donné, en quelque part dans la nuit.
C'était quoi le sujet de discussion? Faire de sculpture?
Oui, au sujet de la sculpture, l'insertion dans le milieu, des choses comme ça, tu sais.
Tu dis que dans ton cas, comme on dit, Québec 75, c'était comme, comme tu dis, c'était une projection très rapide vers l'avant.
Oui. Parce que ce qui était très bien, c'est que, je pense que c'est le cas de Mongrain aussi, puis de Mialcin, c'est-à-dire que dans le fond, nous, on n'a pas bénéficié d'avoir été identifié très rapidement comme étant l'avant-garde. Il y a d'autres gars qui sont occupés, à qui ça leur est arrivé. Et puis, ils sont un peu disparus aujourd'hui, il y en a, ou enfin...
On parle de qui, de comme Nolte?
Jean-Noël. Cournoyer. Tu vois, des gens, la Genie, peut-être moins la Genie que Cournoyer, mais... Révélation très rapide, je pense qu'il est presque des étudiants, au moment où, tout de suite, ils sont sur la place publique, et puis on les identifie comme étant en avant-garde. Alors, tout de suite, il y a une pression sur les autres, puis une responsabilité, que je pense qu'il n'y en a pas un qui était capable d'assumer.
Paquin est mort à la première sculpture.
Ah oui?
Après la première sculpture, c'est comme
ça. C'est ça. Alors, j'ai vu une sculpture d'un gars qui s'appelle Paquin.
Il était au Beaux-Arts en même temps que toi.
Oui?
Non, il était au Beaux-Arts et puis en 65.
Peut-être un petit peu avant, oui.
65.
Un peu avant nous, a été comme révélé, et ça a été... Bon, pour la gang après qui a suivi, enfin, moi, je le pense, ça a été plutôt long, parce qu'avant, de 69 à 60, tu sais, au lieu de... Parce qu'en fait, on avait dû nous révéler en 69, mais ça ne s'est pas passé.
Mm-hmm.
Fait quand il est arrivé Québec 75, on avait un peu de travail en arrière de nous, puis il y avait des choses qui avaient été déblayées. En fait, on a été un peu dans l'ombre, et puis tout à coup, on s'est retrouvé dans une exposition majeure qui traçait les courants des années 70. Mm-hmm. C'était vite. C'était très rapide. Et puis, c'est ça.
Non. Ça, c'est une chose que j'ai eu de la difficulté à comprendre, ce que tu dis là. Tu l'avais dit dans le temps. Vous allez trop vite. Moi, je disais, ben voyons, Roland, bon Dieu, à ton âge.
Oui.
Et c'est pas tellement vite, c'est le temps que ça arrive.
Mais tu sais, c'est vite pour un gars qui est au point zéro en 72, puis qui recommence son expérience.
Puis qu'en 75, bang, on le met en avant.
Oui. C'est-à-dire que c'est sûr que, tu sais, à n'importe quel moment tu m'aurais rencontré, j'avais toujours, j'imagine, j'avais l'air sûr de moi, tu sais, c'est sûr. Le doute, j'ai appris à le cacher, parce que ça insécurise le monde de l'art.
Mm-hmm.
Alors, on ne te fait pas confiance. On pense que, tu sais, si tu doutes, alors on ne sait plus quoi faire avec toi, parce qu'ils ne savent pas.
Mm-hmm.
Alors, je garde ça pour moi.
Et depuis 75, maintenant?
Même depuis 75.
Okay. Encore le doute tout le temps là, mais...
Le doute est tout le temps là.
Mais comment s'est fait l'évolution?
Comment s'est fait l'évolution depuis 75?
C'est parce que 75, ça va être quand même... Tu te souviens de la pièce, bon? Oui. Ça a changé assez vite, finalement, en 75. Puis je me souviens de la pièce que j'ai achetée pour le musée en 78.
Ouais.
Là, on avait commencé à tourner pas mal. Tu avais tourné pas mal, là. Comment ça s'est passé, cette chose-là?
Moi, tu sais, ça a l'air de s'être déroulé tout simplement d'une sculpture à l'autre.
Mm-hmm.
j'ai pas l'impression que j'ai fait des brisures. Je me rends compte que il y a des périodes, sûrement, tu sais, comme bon, les trajets linéaires au sol, et puis après ça, les sculptures qui sont venues s'organiser un peu sous la forme d'une spirale avec quatre côtés. Alors, Québec 75 ont été un peu à la fin des trajets linéaires, un peu. Et puis, sculptures ont monté un petit peu. Alors là, il y a eu différentes expériences importantes. Dans le sens que... est-ce que je suis déménagé ici?
Tu es déménagé ici en 77.
78.
Ça doit, hein? Ce coin-là. Quand je suis venu ici en 78, c'est ça. J'y arrivais,
alors,
là.
Oui, alors après, Québec 75, il y a eu la période des poutres coupées, et puis cette...
L'exposition de Crinozotte chez Bellemare, sur Saint-Denis.
Alors, la rencontre avec Bellemare est importante. C'est importante parce qu'avant Bellemare, j'ai jamais rien vendu. Pas que c'est important en soi comme notion, mais c'est très intéressant comment quelqu'un peut faire la différence. Et puis, Bellemare, j'avais une confiance énorme parce que c'est la première personne que j'ai rencontrée qui avait une galerie qui était capable de parler d'art. Parce que j'en ai rencontré le propriétaire de galerie qui ne connaissait rien en art. C'est très courant en art contemporain. Mm-hmm. Alors, c'était plutôt comme intéressant. Et puis, il s'est mis à venir à l'atelier, puis il regardait ce que je faisais, et puis on parlait. Alors, j'étais capable d'avoir quelqu'un qui venait d'une dimension différente, qui n'était pas un artiste, mais je pouvais avoir une sorte de dialogue avec Bellemare. Et puis, il connaissait plein de choses qui s'étaient faites ailleurs. Et puis, il était très sensible. Je trouvais très sensible. Ses interventions, tout ce qu'il avait à dire sur mon travail était toujours très sensible. Puis il m'a soutenu même dans des périodes où dans l'atelier ça allait extrêmement mal et tout ce que je faisais c'était très mauvais. J'ai passé une année très difficile. La première année, quand il m'a dit, bon, ça tente-tu, tu fais partie de la galerie, je pense que j'ai fait un an, là, le travail était épouvantable. C'est vraiment. Ça marchait très très mal. Et ça m'a pris pour solutionner la problématique, j'essayais d'avancer à ce moment-là, une couple d'années, après deux, trois ans. Ça m'a pris, je ne sais pas pourquoi, mais dans cette année-là, je suis arrivé pas. J'ai pris dans les cul-de-sac. Et puis, en tout cas, Roger était très, très patient. Il venait, puis on discutait, puis on faisait critiques. Puis quand il partait, je savais qu'il n'y avait rien de bon, mais je n'étais pas démoli. Alors, il y avait une influence qui était très bonne sur moi. C'est très facile de sortir démoli. Alors, j'ai fait l'exposition en 1976 avec lui sur les côtes. Et puis, il a tout vendu, l'exposition, ce qui était incroyable. Je ne croyais pas moi-même. Je n'ai jamais rien vendu. Alors, non seulement j'avais quelqu'un qui avait comme une sorte de confiance, que j'avais du potentiel, même si j'avais un doute très, très fort, et même si j'avais de la difficulté à faire des sculptures, comme j'ai passé des années à faire trois sculptures dans l'année. C'est pas beaucoup être capable de faire trois sculptures. C'est pas des années très, très riches au niveau de ce qui se passait. C'est-à-dire que je forçais en maudit. C'est-à-dire que pour tenir ma ligne, dire, ben, je bâtis toute mon expérience à partir de ce que je sais, de ce que je vois. Qu'est-ce qui se passe vraiment sur le plancher? Je prenais beaucoup, beaucoup de temps à articuler les pièces. Et, alors, il y a eu cette Bellemare. Et puis, il ne faut pas démesurer non plus son importance, mais disons que c'était comme intéressant, comme première expérience d'être dans une galerie, de toute façon. Mm-hmm. J'avais été avec Martha avant ça,
l'année dernière. Oui.
Et puis, mais je n'ai jamais exposé dans la galerie, mais disons que j'ai été là quelques mois, puis la galerie a claqué.
Parce que, est-ce qu'il y a aussi une question, c'est est-ce qu'il y a eu aussi une influence du fait de Parachute, parce que c'était à ce moment-là avec France?
Oui, Parachute fait une sorte de... Oui, j'ai rencontré
plein
d'autres.
Parce que t'étais designer en plus, puis...
Ah oui, bien ça, oui, Parachute... Ah, 75, oui, c'est ça, ah oui.
75, c'est ça aussi. Mais...
Oui, 75, c'était ça aussi, parce que Parachute... j'ai rencontré plein de gens qui ont été déterminants. En fait, beaucoup de choses très bien sont arrivées de Parachute, malgré que j'ai mangé des coups parce que j'ai fait ça. En fait, beaucoup d'artistes m'ont pénalisé dans le temps à cause de ça. Mm-hmm. Très curieusement, beaucoup de gens m'en ont voulu parce que je pense que Parachute, ils pensaient que Parachute les excluait probablement. Et j'avais été identifié comme, j'imagine, un coupable puisque je l'avais créé. Mm-hmm. Mais.
Il était créé Parachute?
Oui. Okay. Oui, j'ai créé. Je peux dire que j'ai créé Parachute, même si on ne m'a jamais crédité publiquement pour ça.
On n'a jamais été crédité non. Là-dessus, absolument pas. Là.
Mais Parachute n'aurait pas existé si je n'avais pas été là.
Pourquoi tu voulais que Parachute existe?
Parce que moi, je trouvais que. Ça venait beaucoup d'éditions que j'avais eues avec plein de monde à l'époque, dont la gang de Québec, évidemment, et où je trouvais que. Il n'y avait que Vité d'Homme, qui était la revue ici. Il y avait eu une revue que toi, tu as eue.
Médiard.
Ouais. Médiard, qui a duré un certain temps. Mm-hmm. Et puis, je pense qu'à l'époque où on a parti Parachute, ça ne fonctionnait plus.
Non, on a arrêté en 73, en fin de 73.
Et moi, je pensais que au Québec, ou en tout cas à Montréal, on avait besoin de quelque chose pour répondre d'abord à Vité d'Homme. Et puis, qui pourrait parler aussi de travaux qui nous intéressaient, c'est-à-dire d'artistes qui nous intéressaient, pas juste de la scène locale, mais qui venaient d'ailleurs aussi. Et puis, ça a été un peu le résultat de ma réflexion de Véhicule. Ben, j'ai fait partie de Véhicule avant ça. J'étais très critique de la Galerie Parallèle. J'étais plutôt enthousiaste en rentrant, et puis rapidement, je trouvais que ça fonctionnait pas très bien, la Galerie Parallèle. J'ai vu tout de suite ce que c'était, malheureusement. Que c'était, c'est un tremplin pour la galerie professionnelle, pour la galerie commerciale.
Aucun entraînement.
Oui. J'aimais pas du tout ça parce que pour moi, ça n'aurait pas dû être ça. Mais malheureusement, les galeries parallèles n'ont jamais trouvé, n'ont jamais débouché, n'ont jamais débloqué un public nouveau. Il y avait une absence même de fréquentation. Le véhicule, c'était vraiment tellement peu fréquenté que ça n'avait pas de sens. On s'est aperçu qu'il n'y avait que des artistes qui venaient. Alors, c'est un peu pénible comme situation. Personne ne veut. Pourquoi faire une galerie parallèle? C'est pour se retrouver entre nous. En fond, on n'a pas besoin de la galerie parallèle pour ça. Alors, moi, je pensais que la revue était une façon de débloquer des choses. Alors, c'est ça. C'est un concours de circonstances. Franck, je cherche un job. Bon, je reste avec France. France, je cherche un job. Et puis, à travers Véhicule, moi, j'avais rencontré Chantal. Et puis, il y a des gens qui ont... Ça s'est mis à discuter. L'idée s'est mise à discuter un peu, comme ça, en un petit groupe, que peut-être on pourrait faire quelque chose. Il y avait un petit montant d'argent qui venait du conseil, 5 000 piastres. Et puis, c'était pour faire une sorte de calendrier des événements. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais l'idée, en toute naïveté, on a pensé qu'on pouvait faire une revue au lieu de faire un calendrier. On ne savait pas ce que c'était faire une revue à l'époque. Moi, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire non plus. Alors, où j'ai été fondamental, c'est sûr, dans la revue, c'est que moi, j'avais une expérience de graphisme, j'avais l'expérience de l'imprimerie, mais j'ai été capable de donner une dimension en Parachute au niveau graphique. Uh-huh. Et puis, évidemment, que j'ai participé à la création de ça. L'administrer un petit peu, comme rapidement les débuts. Créer un enthousiasme pour... Là, on avait appelé plein de gens, on a fait quelques réunions. Ça s'est passé chez moi. Et on a demandé à des gens de contribuer. Puis tout ça, ça a été le background. Tout le monde s'est retrouvé.
Donc
les critiques de l'époque. C'était les critiques de l'époque à qui on avait demandé. Tout le monde a dit non. On a publié pareil. Et au départ, le concept de Parachute, c'est que les artistes avaient une part importante dans leur revue. Dans le sens qu'ils faisaient le graphisme de leur page eux-mêmes. Ils pouvaient créer des œuvres qui auraient été des œuvres. Pour la revue, en fait. Ça n'aurait pas été nécessairement un objet, mais ça aurait pu être... il y avait une idée de faire un peu un art conceptuel à l'époque. Je pense qu'il y avait... Il y avait une possibilité là au départ, mais elle a tout de suite disparu parce qu'on a vu que c'était difficile à faire avec les enfants.
Tu t'es tenu combien d'années à parachute?
Moi, j'ai fait que les 4 premiers numéros. J'ai fait la première année. Et puis, je trouvais qu'on ne me laissait pas au niveau... Parce que finalement, ma responsabilité a été au niveau graphique.
On t'a rangé graphiste?
Oui, moi, je me suis rangé aussi graphiste parce que, dans le fond, Chantal avait une expérience, elle avait des contacts avec beaucoup d'artistes que je n'avais pas. Un intérêt aussi pour plus pour la théorie, moi, j'en avais aucune. J'en ai pas encore aujourd'hui non plus pour ça. Puis, alors, comme eux avaient fait le parcours plutôt histoire de l'art, et, alors, bon, ça leur revenait comme rôle, finalement. Moi, j'ai assumé ça au niveau graphique, et j'étais content que ça démarre, puis qu'on puisse parler de gens qu'on aimait, tu sais, comme à l'époque. C'est à travers Parachute que j'ai rencontré Jean Papineau. Puis Jean Papineau m'a fait rencontrer Steve Reich. Très important, Steve Reich, dans mon travail, c'est important. Et puis, bon, Jean Papineau aussi, c'est important. Fait que tout ça, ça s'est tout passé autour de Parachute. Puis on était contents de faire quelque chose sur Steve Reich. Bon, j'aimais la musique, j'aimais bon, les idées du gars, je l'ai rencontré. Et puis la revue parlait de Steve Reich à Montréal. On a introduit Steve Reich à Montréal. Bon, ça donne l'idée de qu'est-ce qui peut se passer dans un milieu régional. Steve Reich va jouer cette année à la Société de musique contemporaine, et que la Société de musique contemporaine, à l'époque, avait renié parce que c'était pas de la musique pour eux autres, Steve Reich. On voit combien de temps, de 1975 à 1983, ça a pris pour Steve Reich, même avec l'appui comme de Parachute, dans le fond, on l'a introduit. Puis c'est pas Parachute qui a fait la différence. Finalement, je pense que là, ce qui a fait la différence, c'est qu'il a été joué à...
Il y a eu un article dans Time Magazine.
Bon, oui, ou à Montbourg, je ne sais plus. Là, tu sais, il y a couché au bord, c'est ça. Alors, tu vois, je vais mettre la lumière aussi parce que... Comment ça va l'air de la grotte de...
Non, mais c'est pas grave, c'est juste pour finir la place.
Il était venu chez moi, puis dans le fond, il avait dit, on sait bien, dans le fond, Roland, tu sais, c'est vrai, tu joues un rôle là-dedans fondamental. T'sais. Moi, j'avais dit, bon, tu sais, je fonctionne surtout au niveau du greffier. J'apportais une expertise de comment... prendre quelque chose qui était une idée, puis lui donner une forme concrète, physique. J'étais capable de le faire. Je sais ce que c'est un imprimeur. J'avais travaillé avec des imprimeurs. Fait que, à ce niveau-là, j'étais capable de dire oui, mais on peut physiquement faire ça. Tu sais, comme dans la réalité, avec tant d'argent aussi, on avait 5 000 $ Je pense qu'on a publié 3 des 4 numéros pour 100. Non, pour les 3 numéros, disons que faire le pay-stop, ça je dis un mois de travail, un mois que je pouvais vraiment compter, parce que c'est sûr qu'entre un numéro et l'autre, le matériel rentrait, et puis bon, je regardais, bon, on fait quelque chose sur Michael Snow, ce numéro ici, c'est quoi Michael Snow, alors j'écoutais un peu des trucs, il a fait des choses musicales, puis il avait écrit, puis alors j'essayais de voir quelle sorte de graphique j'aurais fait pour Michael Snow. Alors, ça m'occupait aussi d'un certain sens. Au bout d'un an, je me suis rendu compte que c'est mon travail d'atelier qui en prenait un coup. Et puis, finalement, je me suis retrouvé dans une situation où je voyais que tout le monde autour, qui, de la part des artistes, qui n'étaient pas couverts, puis qui semblait que la revue ne s'intéressait pas à eux, ils friquaient complètement. Et puis là, ça devenait le froid terrible. Je m'étais en train de mettre tout le monde à dos. Ah oui, tu sais, il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient. C'était heavy comme signe, tu comprends, totalement. Je pense même que Québec 75 a dû y avoir des répercussions de ça, parce que c'était le deuxième numéro, peut-être, qu'on faisait à Québec 75.
Tu sais, dans le premier numéro, je me souviens, je suis interviewé, puis je parle de l'exposition. Dans le deuxième, Chantal fait critique, puis dans le troisième, moi, je répondais.
Et c'est pour ça que tous les premiers numéros de Parachute, il n'y a presque pas de reproduction de mon travail. Il y a mon travail est reproduit dans le premier numéro. Puis après ça, dans les autres numéros, mon travail n'est pas reproduit tant que ça. Parce qu'on disait, on ne peut pas reproduire son travail parce que tu es trop près de la revue. Fait qu'à ce niveau-là, moi, j'étais pénalisé d'abord parce que j'étais à côté sur la revue. Et puis, tout le monde, tu sais, comme... Tout le monde me faisait un peu le froid total aussi, de dire, oh, bon, c'est passé à gauche, c'est pas ici, puis c'est pas ça. Puis finalement, on essayait de comme de tuer ce qu'il y avait quand même un potentiel qui était là. On essayait de le tuer tout de suite sous toutes sortes de formes d'idéologie, quelles que soient, ou des prétextes, ou je sais pas quoi. Et c'est sûr qu'il y avait plein de problèmes.
Mais quand même, on peut dire, si on résume, c'est qu'en 1975, tu es devenu un homme d'importance.
Je suis devenu public.
Oui. Ouais. Un homme très public. Avec Parachute, Québec 75, et tout mis ensemble, en fait. Et ça t'a pas entraîné de réaction contraire, ça. Parce qu'après ça, je pense que tu as vraiment commencé à produire de façon assez bien.
Oui, j'avais rien contre l'idée d'être public. Je pense que j'aimais beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé. D'abord, il y a une stimulation dans montrer tes œuvres sur la place publique, d'avoir des expositions. Quand je vide l'atelier pour une exposition, tout le vide est presque insoutenable. Fait que je me remets à travailler comme très fort. Tu sais, comme si c'est un coup de pied dans le cul tout le temps. Fait que, il y a des choses qui fonctionnent bien à ce niveau-là. Sauf que je trouve ça un peu pénible d'être sur la scène, sur la place publique, tant que ça. Et ça, je pense que tranquillement, je me retire, j'ai l'impression que je suis de plus en plus dans une forme où je participe à presque rien. Mais toutes les premières années, comme le fait d'aller chez Véhicule, j'ai fait partie de la galerie de la sauvegarde aussi. Je trouvais qu'il y avait quelque chose dans la sauvegarde qui encourageait beaucoup de jeunes artistes. Après ça, je suis allé plutôt vers Véhicule parce que je trouvais que ça fonctionnait. Ça avait l'air d'être plus intéressant au niveau du type d'art qu'on montrait par rapport à la sauvegarde. Et puis, d'avoir fait Parachute, c'est tout à fait dans la lignée comment je concevais le métier dans un certain temps. Je faisais des objets et j'en étais responsable. Ça, à ce niveau-là, j'ai toujours voulu assumer ça, sans penser que c'est nécessairement des chefs-d'œuvre, mais il y a des risques là-dedans. Tu sais, faisais des objets, puis à partir d'un point où je trouvais qu'il y avait des choses qui se passaient, je pouvais les montrer, et puis j'étais prêt à les défendre.
Est-ce que tu as encore maintenant cette espèce de présence, disons, sociale, qui est impliquée dans des actions extérieures? Quand est-ce que tu as abandonné ça?
Quand est-ce que j'ai abandonné ça? À partir de Parachute, il y a eu un repli de plus en plus autour de mon travail. Parce qu'en fait, beaucoup de mon énergie est passée à essayer de monter des expositions ou de faire des choses. Et même souvent des expositions qui comprenaient d'autres artistes. Mais quand j'étais avec Véhicule, j'ai fait pas mal de travail au niveau de monter des expositions avec plein d'artistes de Véhicule. On essayait de générer de l'énergie. Il y a eu comme le Roland Poulin, classe publique, un peu personnel. Et puis, il y a un autre Roland Poulin qui était là, en quelque part. C'est celui-là qui m'intéresse. Et c'est après lui que je cours. Puis, plus je fais de la sculpture, plus je me rends compte que les pièces me prennent beaucoup de temps à faire. Et puis, je suis paralysé, dans le fond, autour de mon propre travail. Et ma présence publique, finalement, ça s'est transféré beaucoup plus autour de l'enseignement. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, j'ai toujours été assez. J'ai toujours enseigné. Fait que, tu sais, quand j'ai fait Véhicule, Parachute, j'enseignais, puis je faisais de la sculpture, je trouve que j'étais extrêmement dispersé. Puis en quelque part, c'est sûr que pour arriver à faire une sculpture plus intéressante, il fallait que je donne de l'énergie là-dedans, et il fallait que je sacrifie en quelque part quelque chose. Mais sur la place publique, ça ne m'intéresse pas trop. C'est là comme tout mon rapport avec le modèle va. Parce que finalement, quand on m'a placé dans une situation comme ça, par tempérament, je suis plutôt timide. Alors, je me sens pas très très bien. C'est pas mon eau. Je me sens pas comme un poisson dans l'eau. Alors, finalement, je suis plutôt mal à l'aise. Je fonctionne moins bien. Je fonctionne plus dans un rapport avec des gens. Comme au niveau, dans l'enseignement, ça va assez bien. Ce que j'ai à dire, puis... Je pense que je peux avoir une certaine influence, pas dans le sens que j'essaie pas d'influencer personne à faire le type de travail que je fais, mais je passe beaucoup de temps à essayer de savoir qu'est-ce que je devrais dire à quelqu'un qui essaie de commencer à faire de l'art, puis par rapport à lui, tu sais, ce que lui essaie de faire, sa personnalité, lui.
On va dire, t'essaies de faire ce que tu aurais aimé que les professeurs te fassent à l'école.
Peut-être. J'essaie de sortir de moi aussi, tu sais, sortir de mon atelier, sortir de mon propre travail, de ma problématique. Et puis, je regarde ça comme de d'autres points de vue, comme tout à coup, il y a d'autres personnalités qui sont là. Et puis, évidemment, j'essaie de glisser une couple d'affaires que je trouve qui sont importantes.
Mm-hmm. Mais ta méthode de production maintenant, c'est quoi? Présentement, vous avez trois pièces de sculpture ici dans l'atelier, deux vont venir pour une exposition. Est-ce que présentement, parce que tu es un homme public, travailles-tu quasiment d'une exposition à l'autre? Ce qui ne veut pas dire que j'élimine que tu ne réfléchis pas entre les expositions, tout le contraire, parce que ça change toutes les fois. Mais présentement, on dirait presque que c'est les expositions elles-mêmes qui créent ton rythme de travail.
Oui, j'ai toujours...
T'en as beaucoup, là.
J'en ai beaucoup?
Présentement.
Non.
Mais t'en as... Tu montres tout ce que tu fais.
Oui, c'est vrai.
Non, mais je sais pas si... Non, toi, il y a une notion de rythme extérieur, là. Non, mais il y a une notion de rythme extérieur.
Oui.
Est-ce qu'il te nuit, non?
Non. Ben, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de manifestations par année. J'ai fait... ce que j'ai fait comme moyenne, c'est que j'ai un solo à tous les deux ans. Ça, c'est la moyenne pour les solos. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Non. Et de temps en temps, il y a une exposition de groupe, mais je sais pas... Je produis pas beaucoup, moi.
C'est ça.
En quantité. Non. Alors, évidemment qu'on voit tout ce que j'ai fait. Très bien. C'est beaucoup des pièces que j'ai, personne n'a vu. Quelques-unes. Mais, en fait, je suis pas assis sur un stock d'œuvres, moi. J'ai pas ça. J'ai pas une production abondante. Tu sais, comme si j'ai fait 5 sculptures dans l'année. C'est pas une année, 5 sculptures. Mm-hmm. Mais chacune, je peux la défendre. J'ai un gros système critique.
Où tu l'as pris, ton gros système critique?
Où je l'ai pris?
Toi, tu disais qu'au départ, tu n'étais pas théorique et tu ne l'es point.
Bien, c'est-à-dire, quand je dis que je ne suis pas théorique, c'est-à-dire que je ne suis pas au courant des écrits théoriques ou des derniers écrits théoriques. Il y a plein de choses que je n'ai pas lues. Je ne fonctionne pas vraiment à ce niveau-là. Je pense que j'ai une activité intellectuelle, ça c'est sûr, mm-hmm. Mais non, ça ne me dérange pas si, tu sais, savoir si je suis pro Greenberg ou quelque part de même, ça
c'est pas... Autrement dit, tu n'es pas un gars qui cherche à se mettre en position face à d'autres. Tu vas ramasser de l'information par rapport à la production que tu fais.
Oui. Et ça peut être... et je pense pas que cette information-là est nécessairement dans le champ de l'art. C'est-à-dire qu'elle peut très bien être ailleurs, dans un autre domaine. Je me suis intéressé longtemps à la psychologie de la perception. Il est possible que certains critiques ou qu'il y ait des écrits théoriques qui ont parlé de la psychologie de la perception, mais je ne suis pas au courant de ces théories-là. Mm-hmm. Et c'est pas à cause de ça non plus que je me suis intéressé, c'est un concours de circonstances. J'ai commencé à lire Merleau-Ponty, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait toute une recherche en psychologie de la perception qui, au niveau de la sculpture, me faisait réfléchir. Et c'était une façon pour moi de faire maison nette avec les types de sculptures traditionnelles que je trouvais qui ne fonctionnaient pas. Et à ce niveau-là, c'était important. Mm-hmm. C'est là que ça m'a servi à partir de mon point zéro, les lectures de cet ordre-là. Mais encore là, sont disparates mes lectures, sont pas... c'est vraiment souvent le fruit du hasard, beaucoup.
Mais par contre, l'œuvre comme image est assez unifiée, par exemple.
Oui.
Comment que... Qu'est-ce qu'elle veut témoigner?
Je ne sais pas si je n'arriverai pas à la fin de quelque chose. C'est possible. Je ne le sens pas en ce moment.
Mm-hmm.
Et je suis convaincu... Bon, je suis convaincu que je débouche un langage personnel. Ça, c'est là que je fonctionne sur cette conviction-là très, très fort en ce moment.
Mm-hmm.
Si je n'avais pas ça, je fonctionnerais pas. Maintenant, est-ce que c'est d'avant-garde? Est-ce que j'ai quelque chose à dire. Tout ça, c'est, il y a toutes sortes d'autres problèmes, toutes sortes d'autres affaires qui ne me regardent pas, en fait. C'est un problème peut-être des autres.
Qui ne t'intéresse pas, finalement.
C'est-à-dire que je ne me suis jamais voulu d'avant-garde. Je ne me suis jamais placé. Je n'ai jamais fait exprès pour être d'avant-garde. Fait que je ne saurais pas comment faire. En fait, je suis plutôt embêté à ce niveau-là. Je n'ai pas une tactique de comment être d'avant-garde. Mais ça existe chez les artistes.
Mm-hmm.
Je pense qu'il y a des tactiques pour être d'avant-garde. Je vois des gens faire une mise au point à ce niveau-là. Je vois qu'il y a beaucoup d'artistes en ce moment qui font un recyclage bien évident vers la figuration. Je me sens incapable de poser des gestes à ce niveau-là. Mais je dis à la figuration dans le sens de, comme là, il y a un retour à la narration.
Mm-hmm.
Et je vois beaucoup d'artistes faire mettre fin à leur travail, carrément, et adopter une autre attitude.
Mm-hmm.
Et ça m'apparaît un geste difficile, moi, que je pourrais pas poser.
Mm-hmm.
Alors, quitte à être à contre-courant, mais je pensais que j'étais à contre-courant à partir de 1975, je pense que j'étais à contre-courant, puis pourtant, on a l'air de dire que je suis pas à contre-courant.
T'es partout.
Alors, je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas. Il n'y a pas une volonté. À ce niveau-là, il n'y a pas une stratégie de l'avant-garde. Même que l'idée d'être marginal me répugne assez, en fait. L'idée d'être marginal. À un certain niveau, non, toute idée de marginalité est affreuse.
Mm-hmm.
Je suis dans un quartier bien ordinaire.
Non, mais là, je vais te revenir, justement, puis là, on va retourner au milieu. On y arrive. Avec la remarque que tu avais faite tout à l'heure, à savoir que le milieu québécois est un milieu qui cherche un autre Bordua. Ça nous dit, on reviendra
oui,
là-dessus.
Je pense.
Pourquoi?
On a idéalisé Bordua, qu'il est un mythe. Puis, il est devenu le prototype, j'imagine, de l'intellectuel, de l'homme sensible et de l'homme intelligent. Révolutionnaire. Ben, c'est comme Jésus-Christ, tu sais. Il meurt en croix aussi, tu sais. Il y a l'exil, c'est très fort.
Mm-hmm.
Ça doit te couper la catholique en quelque part.
Mm-hmm. Non, parce que...
une façon assez curieuse d'avoir un fond de québécois qui fait que ça s'y bordure tout à coup. Et bon, le penseur, et puis il est aussi la victime de son milieu, mais en fait il a devancé ses contemporains.
Mm-hmm.
Et puis, c'est une peinture qui a une certaine qualité sur le plan international, moi je le pense. Sans être pro-québécois, je pense que Bordua a une peinture, enfin à mon avis, oui. Peinture qui a une qualité. Pas tous les tableaux, parce que Bordua, c'est un homme qui avait de la difficulté à peindre. Ça, je le pense. Sa peinture montre qu'il avait beaucoup de difficulté à faire un bon tableau. Et on voit les tableaux où il s'est battu littéralement. Puis, des fois, c'est comme une coche. Hein. Mais quand il y a un bon tableau, il y a un très bon tableau.
Mm-hmm.
C'est un peu comment je vois Bordua.
Mm-hmm.
Mais pourquoi ça deviendrait... Pourquoi on cherche ça? Je ne sais pas. Je pense que la gauche d'abord a cherché ça ici. Hein? Peut-être que c'est surtout la gauche qui l'a cherché. Peut-être que Bordua est identifié avec une pensée de gauche aussi. Quoique, encore là, je mettrais... Oh, oui, beaucoup. À savoir exactement si on pourrait le cantonner à gauche ou à droite. Je pense qu'il est plus complexe que ça, Bordua. Je pense qu'il était très intelligent et voyait à travers les choses. Aussi.
Parce que la remarque, c'est ça, c'est... à savoir, parce que Bordua, c'est un phénomène social. Et présentement, je vais faire une longue parenthèse, c'est peut-être le fait que l'art plastique au Québec a peu de présence dans le milieu. Parce que c'est ça qui fait qu'on cherche, c'est-à-dire qu'il y a peu de présence dans le milieu culturel, dans notre environnement, en tout cas. Et c'est peut-être pour ça qu'on veut une autre Bordua, c'est-à-dire peut-être pour te remettre en vedette les arts plastiques, donc réintéresser les gens à la chose qu'on appelle les arts plastiques. Ce serait peut-être ça, non? C'est ma parenthèse.
Je
ne
sais pas, là. Je ne sais pas. C'est un petit peu comme si... Mais à chaque fois que je pense à ça, je me dis, bon, c'est arrivé une fois, sous une certaine forme, qu'on a eu un artiste d'une certaine qualité, à la fois dans sa pensée et dans son travail. Et ça prendra pas nécessairement, ça ne reviendra pas sous la même forme.
Mm-hmm.
Et c'est un petit peu comme si là, on avait. Parce qu'on part avec un a priori. On pense qu'on a compris comment ça devrait se présenter maintenant un artiste.
Okay.
Alors maintenant, les autres, là, on a le modèle ici.
Qu'on essaie de refaire des
choses. Qu'on essaie, qu'on est terriblement déçu. On n'est pas attentif à ce qu'est-ce que sont ces artistes-là. Moi, c'est ce que je pense.
Parce qu'est-ce que tu penses du milieu?
Je pense que Molinari a renforcé.
La notion.
Oh, oui, la notion terriblement. Ça, c'est sûr. J'ai rien contre, je trouve qu'il est très fort.
Bien, justement, qu'est-ce que tu penses du milieu présentement?
Qu'est-ce que je pense du milieu?
C'est le vivant ou c'est.
Je pense qu'il est comme. Il ressemble au milieu que j'ai commencé à découvrir quand j'ai commencé à faire. Je le vois un peu comme ça. Je ne pense pas qu'il a beaucoup évolué.
Tu vas dire, comme tu disais toi-même que tu étais à la misère, ou tu disais que lui aussi était à la misère. Il y a des œuvres que tu respectes quand même, lui.
Oui, un certain nombre d'hommes hein, pour lesquels j'ai du respect, pour l'aide. Puis, des fois,
c'est qui ces gens-là? Tu as dit André Sac jusqu'ici, mais plus ici.
Non, mais c'est sûr qu'il a été agissant. Au niveau de la sculpture, il était déterminant. Au niveau de la sculpture, je ne peux pas dire que les sculpteurs d'ici ont été très importants. En fait, ceux qui ont eu une influence sur moi, finalement, sont des extérieur. Et souvent, des sculpteurs très traditionnels, pas des sculpteurs nécessairement vivants, des traditionnels dans le sens qu'ils sont morts.
Ils étaient
La période constructiviste, est, pour moi, c'est fort. C'est très fort. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a des peintres là-dedans que j'aime, mais Rodchenko, c'est un sculpteur qui est important pour moi. Un sculpteur que j'ai découvert aussi, parce que j'ai vu le travail au Musée d'art contemporain. Qui était la femme de Stanley qui s'appelle Cobro.
Mm-hmm.
Que je trouvais assez intéressant aussi. Et puis, Gonzalez, Julio Gonzalez, qui n'a rien à voir avec le constructif, qui est un nom. Pas le Gonzalez qu'on a l'habitude d'apprécier, mais moi, j'ai une certaine catégorie d'œuvres que j'aime de lui, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a écrit, d'ailleurs, sur Gonzalez, et pourquoi il est si important. En désaccord avec ça, mais ce qu'on... Mais ça vient surtout d'une sorte de déformation parce que David Smith a écrit un texte sur Gonzalez qui a fini par nous donner l'appréciation de Gonzalez via David Smith, mais je pense que Gonzalez est plus complexe que ça et plus intéressant que ce que David Smith en parle. Et je pense que, tu vois, je dis que la théorie ne m'intéresse pas, mais autour de Gonzalez, c'est sûr que j'ai essayé de lire certaines choses, puis il n'y a pas grand-chose. Et c'est un sculpteur qui est presque sombré dans l'oubli, sauf que dans les dernières années, on est en train de le ressusciter parce qu'on est en train d'écouter, qui est assez intéressant, je pense. Là, on m'a dit que Beaubourg avait fait quelque chose avec lui, alors j'imagine qu'on est en train de le redécouvrir. Ben, Brancusi, ça c'est ça. D'ailleurs, en 72, il n'y avait qu'une chose. Quand j'ai fait mon point zéro, là, je ne sais plus rien, c'est partiellement vrai. Parce que quand j'ai commencé à rebâtir mon expérience, il n'y a que Brancusi qui n'existait pas.
D'ailleurs, la colonne sans fin ou toute l'œuvre?
La colonne sans fin, oui, mais c'est pas l'œuvre qui m'impressionne le plus. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est... mon Dieu, j'ai oublié le...
La pièce du musée d'art moderne de New York.
C'est une pièce qui est faite avec une... la partie du bas est assez primitive dans son traitement. La partie du haut, c'est un oiseau.
La pièce du musée d'art moderne de New York.
Le nom m'échappe parce que...
C'est pas un Leda, d'ailleurs?
Un quoi?
Leda?
Non. Non, je me demande si c'est pas... si ça s'appelle pas les...
Ou l'oiseau.
Les contes magiques, non. Non, c'est une pièce très particulière. Alors, c'est une pièce merveilleuse de Brancusi. Puis j'ai bâti un petit peu, beaucoup mon expérience de bâtir à partir de ce travail-là. C'est-à-dire, toutes mes notions de travail viennent de Brancusi.
Mm-hmm.
J'aurais beaucoup à parler de Brancusi. Tu sais, comme ça, je pourrais en parler abondamment parce que c'est quelque chose que je comprends très bien, l'influence dans mon travail. Puis à quel point toute la symbolique de Brancusi, j'en ai fait une négation parce qu'elle ne m'intéresse pas. Alors, sur un certain plan, il y a beaucoup de techniques que j'ai appliquées et de façon de faire la sculpture. Dans mon approche par rapport à des matériaux. Puis, d'un autre côté, la symbolique ne m'intéressait pas. Parce que ce que j'ai introduit, c'est ma symbolique à moi, comme l'horizontalité. Parce que Brancusi est tout en verticalité. Et la verticalité, c'est une symbolique avec laquelle je suis d'accord. C'est longtemps que j'ai pas dit ça. Mais c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Mais en fait, c'est même, je pense que j'étais vraiment fondamentalement contre faire une sculpture verticale.
Au fait, est-ce que tu écris sur ce qui est pas?
Oh, j'ai des cahiers.
Tu as des cahiers avec des notes et
j'ai
des
cahiers. Ah oui.
Oh, yeah.
Un jour, je vais tout coller les pages.
Pourquoi?
Parce que c'est pour moi.
C'est à toi.
C'est à moi.
C'est des écritures personnelles.
Ouais, ça vaut rien. Là. J'ai pas de talent d'écrivain. Puis j'ai pas de. Comme, puis j'ai pas de. Je théorise pas non plus. Je fais pas une théorie. Je dégage pas une théorie à partir de mon travail. Quand il fait le travail, je me recule, je le regarde et puis j'essaie de comprendre qu'est-ce que j'ai mis dans ça. Ça, j'essaie toujours d'en dégager une sorte de compréhension pour moi, comme si c'était pour m'aider pour ce qui s'en vient après. Mais, illusion totale. Mais à ce niveau-là, je théorise pas plus que ça. Dans le fond, ce que je fais, c'est essayer de dégager. Je ne sais pas, là, à l'avant, on me perçoit souvent comme quelqu'un qui est très conceptuel à mon travail.
Le résultat, il est beaucoup.
Le résultat semble peut-être donner ça. Comme dans le cas de Brancusi, on penserait que c'est très, très conceptuel. Mais en fait, quand je pars de travail, je ne sais pas la forme.
On dit que tu aurais une démarche, là c'est la théorisation, tu aurais une démarche très primitive. Présente avec un problème, tu travailles avec le problème, puis c'est finalement l'aspect pratique de la production qui va t'intéresser et de voir comment ça, où ça va te mener. Une démarche, l'œuvre se construit par la démarche. Non, oui, non.
En fait, il n'y a rien conceptualisé dans mon approche. Assez curieusement, j'ai toujours gardé la même tactique qu'au départ. Mon fameux point zéro, c'est-à-dire je prends quelque chose, je le m'attache, je m'accule, puis je regarde. J'ai, essentiellement, je bâtis chaque sculpture comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas une image de la sculpture avant de faire l'objet. Ce que j'ai, par exemple, c'est une sorte de sensation de quelque chose que je ne sais pas comment dire ça, je ne sais pas comment le décrire parce que c'est pas, je ne suis pas le genre inspiré ou quelqu'un de même. Tu sais, je ne fonctionne pas comme ça. Mais, je cherche à faire quelque chose où il y a plus de tension, où c'est plus contenu, où c'est plus... bon, c'est très vague, ce genre de choses, comme une sorte de sensation.
Tu avais pensé à de la musique, bon.
Oui, c'est, je me sens, comme d'ailleurs, je suis plutôt, c'est plutôt quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de relations. Alors, la musique est très importante dans ma vie. Au niveau de l'écouter, parce que j'ai aucun don pour grand-chose, mais au niveau de l'écouter, ça, c'est ce que je fais beaucoup, pas beaucoup d'importance. Alors, je fonctionne beaucoup comme à un niveau, comme j'essaie de t'expliquer, comme c'est plus comme une sorte de sensation de... Bon, c'est très, très vague. C'est pas une image en particulier. Et je bâtis vraiment une sculpture à partir de ce que je vois par rapport à ce que... où j'essaie d'amener ça. Mais c'est presque au niveau sensoriel. Ça passe beaucoup par la matière. Et pour moi, la sculpture, c'est une poétique de la matière. C'est-à-dire que ça ne procède pas des images ni des idées. Et c'est pas du tout conceptualisé, mais ça vient beaucoup de manipuler les éléments. Simple au départ, mais dans la manipulation, tout à coup, ça s'organise. Et là, il y a tout un tri à faire dans les différentes possibilités d'organisation. C'est là que je suis très agissant, puis où il y a beaucoup de critiques que je fais. Parce que c'est pas toutes les possibilités qui sont intéressantes par rapport à ce que je sens. Il y a beaucoup, il y a une grande partie que quand je me recule devant l'objet, il y a une grande partie que l'objet me révèle de moi-même en quelque part. Et il y a une projection intérieure, en fait, je pense.
Parce que finalement, c'est qu'en utilisant le béton, c'est-à-dire où on parle justement de poussière,
il faut nécessairement passer par une forme de mise en chantier qui veut dire bon, qu'il y a A bien rampé, parce que pour être au ciment, il faut avoir un moule puis un autre travail aussi par avant. Alors, c'est sûr qu'il y a un point où l'objet, d'abord l'objet est monté à l'échelle, je ne fais jamais de maquette, je ne fais jamais de dessin sculpture. Je n'ai pas une technique à ce niveau-là de conceptualiser l'objet. Je ne dessine pas, je n'en fais pas de maquette. Je fais un objet réel qui est en bois, à l'échelle réelle. Et une fois que lui est fait, je fais un moule et je le coule ainsi.
Et pourquoi le bois est éliminé?
Pourquoi le bois est éliminé?
Qui n'est pas monté.
Parce que le bois est un peu. Moi, j'ai une technique très traditionnelle. Dans le fond, traditionnellement, de la terre glaise, on fait un moule et on coule en bronze. Moi, j'ai adopté une technique traditionnelle de sculpteur. C'est là que je me suis ramassé. Ça, elle ne l'était pas au début. Mais plus je fais de la sculpture, plus je deviens comme moi. Je me trouve extrêmement classique hein, comme démarche. Fait que la terre glaise disparaît dans l'ancienne technique pour faire place au bronze. Et moi, c'est le bois qui est la terre glaise pour moi. C'est un matériau très malléable qui se travaille assez rapidement. Je suis outillé pour le travailler. Et puis, une fois que je suis arrivé à vérifier un certain nombre d'hypothèses là, autour de quelque chose, puis que ça. Alors, j'enlève le bois parce que ce que je cherche, il n'y a que le ciment qui peut me le donner. Ou alors, peut-être certains métaux peuvent me le donner. Mais. La situation économique là, et la réalité de l'échelle des sculptures, tout ça, le ciment, c'est ce qui est mieux. C'est ce qui fonctionne le mieux. Alors là, c'est ça. Alors c'est le ciment qui prend la place du bois parce que j'ai besoin du poids que le ciment donne. J'ai besoin de la densité du ciment. Et j'ai besoin de son caractère aussi qui a une qualité plus abstraite aussi dans le ciment. C'est-à-dire que dans le fond, quand tu vois le ciment, ça ne fait pas référence à, par exemple, si tu vois un contreplaqué, tu penses au clos de bois, tu penses à des techniques de construction. Parce que le ciment n'implique pas de technique de construction, d'assemblage. Tu n'as peut-être pas pensé à clos de bois ou chantier de construction, des choses comme ça. Un caractère comme le bronze avait pour les sculpteurs traditionnels, de plus abstrait et qui a une certaine force dans le matériau. C'est aussi un matériau qui subit une transformation, comme le bronze. Il est liquéfié. Alors, le ciment aussi, il y a un dégagement de chaleur, c'est une réaction chimique. Il y a un transfert dans la matière qui s'opère, qui pour moi est très important. Et ce que le ciment fait, c'est qu'il prend l'empreinte du moule. Alors, il y a tout un caractère de fossilisation, que je pourrais dire, par lequel la sculpture, qui se passe avec la sculpture, où le ciment prend la forme du moule et tout à coup, finalement, toute l'activité intellectuelle et sensible que j'ai eue devient figée et comme fossilisée. Si le ciment me permet ça.
Est-ce que ça marque le temps? Du moment, ou bien ça marque le temps dans ton évolution? Est-ce qu'on peut parler d'évolution? On pourrait errer de ça. Comment tu vois le milieu présentement, tu l'as dit un peu tantôt?
Au même point.
C'est comme la question 7-8 que j'ai ici, là on change vite de domaine. Est-ce qu'il y a un art québécois?
Est-ce qu'il y a un art québécois?
Pour nous parler d'un art québécois.
Une question que je trouve toujours très difficile à aborder. Peut-être que je vais l'aborder dans un autre billet. Mm-hmm. Parce que j'ai fait une sorte de réflexion que j'ai fait. Parce qu'il y a eu la tentation américaine.
Chez toi.
Oui. Elle s'est offerte comme possibilité. Parce que je suis allé dans le contexte américain travailler.
Très tard. Park.
J'ai fait au Park. C'est le Art Park, ça a commencé. Il y avait tout à coup la possibilité d'être sur le territoire américain, de fonctionner avec de l'argent américain aussi, c'est-à-dire une certaine quantité d'argent, et puis travailler avec une certaine échelle. Il y a un certain type de. Il y a un certain nombre de problématiques qui sont là. Puis, de toute façon, tout l'art américain s'est beaucoup développé autour d'une notion d'échelle. Alors, c'est sûr que la notion d'échelle, c'est une notion sur, qui est fondamentale en sculpture, en tout cas, et sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Puis ça, j'ai réfléchi à ça aussi avec l'aide de Claude Mongrain, puis tout ça. Ça faisait partie de nos discussions. Et puis, nous, on avançait que de faire une sculpture à Montréal, et sûrement que tu pouvais pas. Il y avait une certaine échelle particulière à cette situation-là. Et quand je me suis retrouvé dans le contexte d'Art Park, bon, la tentation américaine, ça a été évidemment de vérifier un travail dans une autre échelle. C'est ce que j'ai fait, changer d'échelle. Par rapport à ce que j'ai fait à Art Park, je pense que c'était plutôt intimiste comme travail par rapport aux autres sculpteurs qui étaient sur place au moment où j'ai fait la pièce. Mais il reste que c'est une grosse pièce pour moi. Et puis, je pense que j'ai éclairci quelque chose qui, pour moi, était important que dans le sens que j'ai compris d'abord que j'étais plutôt intimiste. Mon approche était plutôt d'un artiste qui faisait un travail intimiste. Donc, la grande échelle, est un peu, c'est problématique tout de suite pour un intimiste. Il est dans le mauvais registre, sûrement. Et puis, qu'il y avait un rapport étroit entre le fait de faire une sculpture à grande échelle puis le contexte américain. Et que, pour faire une sculpture avec l'échelle américaine, le contexte de Montréal est complètement absurde et disproportionné. Et puis, il y a une réalité économique qui soutient une sculpture à grande échelle. Si je regarde la problématique de certains sculpteurs où il y en a un qui a fait un kilomètre en bronze ou en laiton, je ne me souviens plus, il y a du fric là-dedans. C'est disproportionné par rapport à la réalité montréalaise, par rapport au milieu, indécent. C'est même indécent dans le contexte de New York, je trouve. je trouve que l'objet lui-même est extrêmement problématique. Quand je l'ai vu la première fois, il m'a écœuré. Il m'a franchement écœuré. Il m'a révolté. Et je le voyais dans le contexte de New York. Fait que de le voir dans le contexte de Montréal, c'est encore pire. C'est impensable. Et en fait, je pense que il y a un type de rapport que j'entretiens avec la ville, que j'entretiens avec le lieu ici,
avec Montréal,
par rapport à l'échelle de ce que c'est ici, architecturalement, au niveau de la population, à toutes sortes de niveaux, dans une réalité économique aussi, le fric que j'ai, puis, bon, tu sais, c'est une réalité assez forte chez un sculpteur parce que ça fonctionne beaucoup matériaux, le clos de bois, c'est une réalité première importante, tu apprends ça vite. Une scie, ça coûte temps, puis bon. Fait que je pense finalement le type de travail que j'ai fait est en rapport avec ça.
Ton échelle est montréalaise.
Puis que quand je suis allé dans le contexte américain, la première expérience à Albert Park, ça a été finalement une sculpture assez intimiste pour une sculpture extérieure, puis ce contexte-là. Après ça, je suis allé au PS1. Alors là, j'ai fait une sculpture plus grosse au PS1. À l'intérieur est complètement déraisonnable. Là, j'ai fait une deuxième constatation, c'est que non seulement j'ai fait une sculpture qui est très très grande, mais dans le système américain aussi, à ce moment-là, en tout cas, c'était beaucoup, on trouve un lieu, à partir du moment où tu as le lieu, tu fais l'objet pour le lieu. C'est-à-dire, l'objet est en relation avec le lieu. Alors, je pense que j'avais comme temps de travail dans le lieu, 3 semaines. Alors, quand je me suis reculé, au bout de 3 semaines, je me suis reculé avec un verre de vin, parce que c'était le vernissage. Il circulait avec tout le monde, puis j'ai regardé. Il a répondu, puis j'ai regardé. C'est un problème qui était très grand pour moi de faire ça, parce que c'est une activité contraire à toute mon activité normale. Et je me suis aperçu au bout de 5, 6, 7 semaines que finalement cet objet-là, bon, ça c'était le premier jet. Habituellement, ça dort sur mon plancher d'atelier, personne ne voit ça. Par ça, je retravaille encore dessus. Fait que là, dans une certaine mesure, je me suis aperçu que le contexte américain, ou ce type de travail-là, toute l'approche un peu conceptualisée où, bon, tu as un lieu, tu fais un travail, tu envoies le lieu, bon, après ça, on détruit le travail, on passe à d'autres choses, il y a une sorte de consommation qui se fait. Ça n'allait pas du tout avec ma façon de penser, ni ma façon de fonctionner. C'est complètement étranger à ce qui m'est familier. Puis avec ce que je veux faire. Et je suis devenu comme très critique de tout le comportement des sculpteurs américains, qui des fois va assez loin dans la destruction de leur propre travail. Il y a des aberrations, beaucoup d'aberrations, dans faire des travaux à grande échelle, puis être obligé après ça d'aller les détruire pour les sortir du lieu. Moi, je ne voudrais pas détruire mon travail. Comme c'est un geste que je ne pourrais pas le poser. Que d'autres assument ce genre-là, mais moi, je ne pourrais pas l'assumer. Tu ne fais pas les entendre, après ça, tu ne vas pas les tuer. C'est comme je trouve ça complètement capoté. D'ailleurs, les sculpteurs qui m'ont raconté ce genre de choses-là, ils trouvaient qu'il y avait des difficultés aussi, mais ils sont pognés dans le système américain.
Dans ce sens-là, c'est comme ça que tu définis, on dirait, le milieu québécois, ou l'art québécois, les conditions d'art québécois. À savoir.
Alors, j'en arrive à dire, j'ai pris conscience à travers une couple d'expériences que, en fait, il y a un type de rapport qui s'était fait à mon insu probablement, mais il y a un rapport entre l'échelle de la ville, puis mon travail, le lieu, et que je dois assumer. Dans le fond, je ne suis pas à la remorque des problématiques américaines. De toute façon, par l'échelle, je m'en exclus. Moi, je n'ai pas de substance pour ça. Je suis un petit sculpteur de rien. Bon. Alors, je ne peux pas faire la carrière américaine.
OK. Tu aurais aimé la faire, mais tu ne peux pas la faire. Ça serait te renier.
Je ne la ferais pas de main. Okay. Ça ne pas. C'est pas. On ne la fait pas à tout prix non plus. Et dans ce sens-là, je poursuis cette idée qu'il y a une échelle, un type d'échelle particulier qui m'intéresse. Et que, finalement, le rapport est beaucoup moins entre la sculpture et l'architecture, c'est-à-dire l'architecture et le lieu, qu'entre le corps, celui qui l'a fait, celui qui va regarder aussi, le spectateur, et l'objet. C'est ce rapport-là, finalement, que moi, c'est une option que j'ai travaillée. Sauf que c'est pas une option qui était définie comme une option d'avant-garde. Dans les courants, fin des années 70, en tout cas, ça ne l'est pas. Il y a un gars américain qui lui a changé un peu les données de ça, qui s'est échappé. Parce qu'il a introduit une notion de petite échelle dans la sculpture américaine, et c'est le premier à l'avoir fait, puis ça a été perçu comme extrêmement radical. Mais encore là, il y a un concours de circonstances qui fait que peut-être Shapiro a été identifié comme ça, c'était radical. Peut-être d'autres éléments aussi. Ben, soit disons que, de toute façon, il y a une échelle très particulière que je travaille. C'est ça. Et puis, il y a la préoccupation de la lumière aussi. Et moi, je pense qu'il y a, une lumière particulière qui est ici, qu'on trouve dans mon travail. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui s'est fait, comme s'est révélé avec le temps, l'importance de ça. Et que je me conçois de plus en plus comme une sorte d'artiste nordique. Je trouve qu'au niveau des thèmes, au niveau du traitement de la matière, il y a quelque chose de nordique, finalement. Je trouve qu'il y a aussi, j'ai une sorte d'attraction aussi pour les œuvres qui sont nordiques, que ce soit européennes. Il y a quelque chose là qui se passe dans ce sens-là. Je prends comme de plus en plus conscience de ma situation géographique, parce qu'il y a finalement un choix qui s'est fait d'être ici. Puis de faire une sculpture ici, un contexte qui ne se prête pas à faire la sculpture. En fait, je ne pense pas qu'un contexte ici permet beaucoup de faire la sculpture. C'est un peu capoté. Sur le plan économique, c'est complètement capoté.
Oui, mais tu l'as fait et ça fonctionne.
Oui. Je me suis découragé.
Non. Non, t'as pas été découragé parce que ce que tu es en train de décrire là, c'est un peu dans ta démarche, c'est-à-dire. Quand tu parles de nordique, tu sais, je pense aux architectes comme Aalto ou tu sais, surtout les Finlandais, ces choses comme ça. Ce sont justement des œuvres très à la limite. La petite déviation fait toute la suite l'édifice. Mm-hmm. Ces gens-là font ça, les nordiques font ça maintenant, c'est-à-dire le mobilier, tout, c'est pas des trucs. C'est pas Miss Van der Rohe.
Non.
C'est tout à fait autre chose. C'est dans une subtilité avec des moyens primaires.
Mm-hmm. Alors, si je dirais, est-ce que l'art québécois existe? Moi, je vais dire que ce que je trouve difficile ici, c'est que j'ai toujours l'impression que. Comment dire? Il y a toujours un certain nombre d'artistes qui répondent. Est-ce qu'on a une certaine attente du milieu?
Au bord du bois qu'on attend.
Oui, alors oui, il y a ça. Ou alors, c'est l'autre option que je vois, c'est comme il faut surtout être d'avant-garde. Alors, est-ce qu'on est du 20e siècle? Alors, si ce dessin est courant, identifié comme avant-garde en quelque part, y a-t-il quelqu'un qui travaille un peu dans la veine de.
Mm-hmm.
Parce qu'on veut être dans le coup. Alors, on récupère continuellement des gens qui sont à la remorque des problématiques externes, très souvent. Ils répondent à un besoin très immédiat. Ils confirment que le milieu n'est pas trop archaïque.
Mm-hmm.
C'est dommage, parce qu'on n'est pas capable d'accumuler rien avec ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est continuel là, que je vois d'année en année, les noms changent.
Quel nom tu donnerais, par exemple?
Je ne voudrais pas en donner.
Je t'en donnais un. Donc, monte loin. Hein.
Monte loin? Oui, je pourrais dire de Laval.
Okay.
Je réponds à un besoin d'avoir une sculpture minimale. Dans un milieu où il n'y a pas de sculpture minimale, c'est qui on a de Laval, tout à coup? Est-ce qu'il est vraiment minimal? Il a peut-être assumé un rôle que, tout à coup, peut-être qu'il faisait un genre de travail qu'il pouvait faire. Moi, je me suis battu plus longtemps parce qu'on a essayé de me faire de moi un minimaliste.
Ben oui,
et c'était une bataille.
Que tu étais le Carl-André québécois pendant un bout de temps.
Je pense qu'on essayait d'insister, tu comprends, qu'on voulait me faire enfin. Moi, j'ai refusé ce rôle-là. Parce que, dans le fond, ça niait ma problématique complètement. Ça niait ma problématique. Mais parce que, évidemment, bon, il y a un courant de pensée qui valorisait une certaine logique dans la relation des parties de l'objet. On dit, bon, qui utilise la logique à Montréal? On s'est retourné, bon, on a un gars qui fait de la sculpture, entre autres, parce qu'il y avait d'autres noms aussi, mais entre autres, on avait un gars qui fait de la sculpture, où on voit des relations logiques à l'objet. Ce qui était vrai. J'utilisais ça consciemment, la relation logique. Ma position est très particulière par rapport à ça. Sauf que c'était très. Ça me fait. Comment dire, on simplifiait mon expérience et on essayait de la rendre similaire à une expérience qui se passait ailleurs. Ce que le milieu essayait de faire, je le comprends aussi, c'est qu'il essayait d'être dans le coup du 20e siècle. Il essayait de dire, bon, oui, nous autres, on a quand même ici un sculpteur sérieux. Il travaille des problématiques contemporaines. Je comprends le milieu. Mais moi, il évacue ma problématique en faisant ça. Mm-hmm. Dans le fond, ben, moi, je suis complètement terrorisé avec ça, cette affaire-là, parce que je me dis, bon, mais là, on a des fausses lectures. Alors que mon intérêt pour la logique n'est pas du tout dans la valorisation de la logique. C'est très, très différent du minimalisme.
Mm-hmm.
C'est ce que j'ai essayé d'éclaircir à travers mes discussions avec des gens, puis à travers différentes choses. Un gens m'a parlé et dit, toi, tu fais une sculpture minimale.
Et maintenant, je pense que tu commences à le prouver vraiment.
Ben, je pense démarquer. Que là, les gens disent, oui, comment ça dit, tu sais, comme, tu fais plus de sculpture minimale. Mais tu sais, quand on retourne en arrière, on pourrait voir à quel point il y a toujours eu des aberrations, il y a toujours eu de l'irrationnel, il y a toujours eu des éléments où j'ai jamais été un pur systématique. D'ailleurs, les systématiques, ou ceux qui encourageaient le systématisme, comme Gerbrand, je suis un gars qui n'arrive pas à comprendre pour lui. parce que j'arrive jamais à faire un travail systématique qui pour lui est sublime, là, tu sais, comme d'autres artistes qu'il a identifiés, c'est bien évident.
Uh-huh.
Je ne suis pas un systématique non plus. Et l'idée pour moi d'utiliser la logique, c'est une position très particulière parce que moi, je n'ai pas voulu emprunter le chemin traditionnel du romantisme. Je suis très critique de ça. Et j'ai essayé d'apporter un autre chemin. Et ça, c'est Kafka pour mon truc. Très curieusement. J'ai un intérêt très, très grand pour Kafka. Mais encore là, ça, c'est une influence qui remonte à très longtemps, puis qui s'est fait comme beaucoup à mon insu aussi. Mais